Bonjour à vous tous. Je me trouve aujourd'hui devant ce micro. Je peux vous dire que c'est beaucoup moins confortable d'être assis à ma place habituelle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'imagine en lisant le Quoi de neuf, vous aviez une question à me poser par rapport au choix de ce passage. Surtout parce que nous l'avons déjà médité il y a 2 semaines. Quelques jours avant la fin de l'année, Adeline m'avait envoyé un mail pour me demander le thème de mon message de ce culte aujourd'hui. Et je lui ai répondu que je pensais prendre le passage du jeune homme riche qui se trouve dans les 3 évangiles. Et il y a 2 semaines, lors du dernier culte de l'année 2017, j'étais plongé dans mes pensées par rapport à ce texte. Et voilà Timothée qui se lève, je n'avais même pas encore pris le temps de regarder le Quoi de neuf. Et il annonce le passage qu'il avait choisi pour la prédication du jour, c'était Marc 10. Je n'en revenais pas, exactement le même texte, le même évangile. Je me suis dit, mince alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce dimanche-là, j'ai bien écouté le message de Timothée. Je le remercie pour tout ce qu'il nous a apporté par rapport à ce texte. Pourtant, à la fin du culte, je n'avais pas la conviction qu'il fallait changer de cap. Je pense que nos 2 prédications se rejoignent, se complètent. Je vous dis que ce passage est une véritable mine d'or. Et je pense que Dieu a encore quelque chose à nous dire ce matin par rapport à ses paroles. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience suivante? Vous avez souhaité obtenir quelque chose et finalement cette chose que vous aviez tant désirée vous échappe. Je n'ai pas besoin de reconnaître la réponse, mais je vous invite à réfléchir. Y a-t-il quelque chose dans votre vie passée que vous auriez souhaité obtenir? Une chose qui vous paraissait importante, très importante même. Et vous étiez à 2 doigts de l'obtenir. Vous auriez pu l'attraper. Mais pour une raison ou une autre, elle vous a échappé. Et vous avez raté l'occasion. J'ai des collègues qui sont revenus après pas mal d'années de service en Afrique. Revenir dans son propre pays après avoir vécu longtemps à l'étranger, c'est tout un défi, c'est compliqué. On se sent étranger chez soi. Il faut retrouver ses repères, il faut faire face aux rouages de l'administration française, c'est compliqué. Et peu après leur retour en France, ce couple avait décidé d'acheter une maison. Ils ont établi une liste de critères. Ils ont fixé un budget qu'il ne fallait pas dépasser. Et après une première recherche qui n'a rien donné, ils ont visité une maison Castor. Je pense que vous connaissez les maisons Castor qui ont été construites après la guerre. Et cette maison correspondait à leurs critères. Et en plus, le prix était abordable. Peu de temps après cette visite, ils étaient en train de prendre le petit déjeuner. Quand soudain, l'épouse regarde son mari, elle dit, il faut aller tout de suite à l'agence immobilière. C'est comme si tout à coup le Seigneur avait mis cette pensée sur son cœur. Donc ils partent, ils se retrouvent devant l'agence à l'ouverture. Et même avant la dame qui était responsable pour la vente n'arrive. Et ils ont eu tout juste le temps de commencer à discuter de la vente, de l'achat de la maison, et que voilà, le téléphone sonne. Une autre personne qui voulait acheter cette maison. Si mes collègues avaient eu quelques minutes de retard, cette maison leur aurait échappé. Une fois de plus, ils ont vu la main de Dieu dans la manière dont les choses se sont déroulées. Il se peut dans votre vie que vous avez été si près de quelque chose que vous désiriez tant, et pourtant, au dernier moment, vous ne l'avez pas eu. Pas forcément une maison, ça pourrait être autre chose, un emploi, un concours, peut-être même un projet de mariage. Dans notre texte aujourd'hui, il est question d'un jeune homme qui désirait tellement obtenir quelque chose. Il était si proche de l'obtenir. Mais avant d'explorer ce texte, j'aimerais encore poser une question. Si Jésus était en personne ici à la BN ce matin, quelle question aimeriez-vous lui poser? Imaginez un peu qu'il se trouve là devant vous et que vous ayez la parole. Auriez-vous une question brûlante à lui poser? Aimeriez-vous qu'il vous donne une réponse claire et nette? Les questions que nous posons reflètent parfois ce qui est dans notre cœur. Dans notre passage, le jeune homme en question nous fait part de ses inquiétudes, de ce qui le tracasse, de ce qui le travaille en profondeur. Et voilà le texte en Marc 10. Comme il partait, un homme accouru se jeta à genoux devant lui et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus est sur le point de partir, de reprendre la route, quand soudain, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui. Son comportement nous donne à penser qu'il y a urgence. Il court. C'est maintenant le moment ou jamais. Il faut saisir l'occasion. Jésus est sur le point de partir. Encore quelques minutes, il sera trop tard. La Bible du semeur nous dit que cet homme se jette même aux pieds de Jésus. Nous pouvons imaginer toutes sortes de choses. Il a certainement un membre de sa famille qui est malade, voire en train de mourir. Il a certainement besoin d'aide. Après avoir couru, je m'imagine qu'il doit reprendre son souffle. On attend patiemment qu'ils nous disent quel est son problème. Et voilà, il pose simplement la question: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Étonnant, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons bien entendu, jeune homme, répéter la question? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Il y a quelques mois, nous avons entendu un exposé sur la vie de Luther. Nous étions nombreux. Ce jeune homme dans l'évangile de Marc aurait pu être Luther. Cette question est tout à fait celle que Luther se posait en tant que jeune homme. À l'âge de 22 ans, alors qu'il regagnait sa maison à cheval, il était surpris par un orage très violent. La foudre a frappé très fort, très près de lui, tout près de lui. Il a eu peur. Il a fait un vœu. S'il échappait à la foudre, il se ferait moine. Et c'est ce qui est arrivé. Son père est furieux. Il considérait tout cela comme un vrai gâchis après les études que Luther avait faites. Mais Luther a poursuivi son chemin, il est entré dans la vie monastique. Comme il avait appris le latin, il avait une certaine connaissance des Écritures, mais malgré tout, son âme était dans le tourment, pleine d'angoisse. À cette époque, la vie était bien précaire. Luther s'interrogeait sur les moyens d'accéder à la vie éternelle. En plus de ses vœux monastiques, il faisait des actes de pénitence. Il jeûnait, car il était très préoccupé par le salut de son âme. Il n'avait pas encore trouvé la réponse à ses questions. Il pensait qu'il ne parviendrait jamais au salut. Il ressentait terriblement sa condition de pécheur devant Dieu. Comme cet homme à genoux devant Jésus, le cri du cœur de Luther était « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Avant Noël, j'ai accompagné Martin pour tenir le stand à la cour des maréchaux. Une chose nous a frappé ce jour-là, surtout Martin. Pas mal de personnes ont refusé de prendre le dépliant sur Noël que nous leur tendions. C'est comme si dans notre société, nous ne sentons plus tellement concernés par ces questions telles que celles que ce jeune homme a posées à Jésus. C'est la vie aujourd'hui qui compte, le moment présent, la fête, le plaisir, le sport, l'avenir. On le laisse venir, on ne s'inquiète pas. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Cette question, aux yeux de plusieurs, est complètement démodée. Elle n'a plus de place dans notre société aujourd'hui, tellement évoluée, éclairée. Pourtant, le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. L'Ecclésiaste nous donne ce magnifique poème qui parle de l'équilibre parfait, de la beauté de notre monde créé par Dieu, avec les naissances, les décès, les diverses saisons de la vie sur terre, avec leurs émotions variées. En Afrique, nous avons constaté que la vie est tellement marquée par les naissances et les décès. Chaque personne au village vivait ces moments de manière intense. On ne pouvait pas y échapper. Quand quelqu'un décédait au village, la vie s'arrêtait. Il fallait marquer l'occasion par sa présence. Parfois, je me dis, quel contraste avec la vie en Occident. Est-ce que la vie a autant de valeur à notre époque? On assiste à des débats sans fin sur l'euthanasie et bien d'autres choses. L'Ecclésiaste nous dit que tout ce que Dieu a fait est beau en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Oui, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la pensée de l'éternité est bel et bien là dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Il se peut qu'elle soit réprimée, repoussée, enfouie, mais de temps en temps, elle refait surface. Oui, que nous ayons le courage ce matin de poser les bonnes questions, de nous interroger par rapport à notre vie, à notre avenir, sur terre et dans le monde à venir. Les évangiles nous donnent un portrait de ce jeune homme. C'est comme un tableau. Vous savez que on peut passer devant un tableau à toute vitesse sans voir les détails que le peintre a mis dans ce tableau. Mais attardons-nous un peu sur la scène décrite ici pour ne pas passer à côté de ce qui est important. qu'est-ce que nous apprenons de ce jeune homme? Tout d'abord, il s'agit de quelqu'un qui était sincère. Il était honnête. Il ne portait pas de masque pour faire croire que tout allait bien, alors qu'en réalité, tout allait mal au fond de lui-même. Sa démarche montre qu'il y avait urgence pour lui. Et c'était le moment ou jamais de poser cette question à Jésus. Il cherchait une réponse, une vraie. Cette pensée de l'éternité l'accompagnait jour et nuit. Il ne pouvait pas accepter que la mort allait tout chambouler, tout détruire. Il voulait avoir une espérance solide qui traverserait la mort. Une espérance qui serait comme un pilier de sa vie. Deuxièmement, cet homme n'était pas n'importe qui. Luc nous dit qu'il était notable, une personne bien respectée, qui avait un rang important dans la société. Certains auraient pu envier sa position, mais il lui manquait quelque chose. Nous avons tendance à envier des personnes qui semblent réussir dans la vie. Mais je me dis toujours qu'au fond, je ne sais pas ce que ces personnes vivent réellement. Leurs inquiétudes, leurs difficultés, les questions qu'elles se posent en secret. Je crois bien qu'il en a coûté à ce jeune homme de courir et de se placer devant Jésus et de lui poser cette question. Troisième, Marc nous dit qu'il était jeune. Il avait la vie devant lui. Peut-être des projets à l'infini, de belles perspectives de l'avenir. Pourquoi s'inquiéter de demain quand on est dans la force de l'âge? Il ne s'agissait pas d'une personne âgée qui avait déjà fait sa vie et qui savait que le temps qui lui restait sur terre était court. Non, un jeune homme, mais un jeune homme mûr qui posait les bonnes questions. Verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sauf Dieu, sinon Dieu seul. » La première remarque de Jésus, « Pourquoi tu m'appelles bon ?» nous fait penser qu'il était plus habituel d'employer le mot « maître » tout court, au lieu de dire « bon maître ». Cela ne se disait pas à l'époque. C'est comme Jésus veut pousser la réflexion de ce jeune homme encore plus loin, en lui disant « personne n'est bon sinon Dieu seul ». Est-ce que ce jeune homme peut saisir que Jésus n'est pas un simple prophète, mais quelqu'un d'infiniment plus grand? Marc 10, verset 19, « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Jésus cite les commandements que ce jeune homme connaissait très bien. Ça faisait partie des 10 commandements que chaque juif connaissait. Le verset 20, « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Étonnant peut-être, mais nous avons ici un jeune homme qui semble être sans reproche vis-à-vis de la loi. Cela ajoute, si vous voulez, encore un détail de plus sur la vie de ce jeune homme. Il est sérieux, attaché aux valeurs, soucieux d'avoir une vie sans reproche. Pourtant, il est insatisfait. Il y a un vide dans son cœur, un vide qu'il a du mal à décrire. Et il désire tant combler ce mal-être qui le ronge à l'intérieur de lui-même. Il y a encore des personnes aujourd'hui qui vont vous donner cette réponse. Je n'ai jamais fait de mal aux autres. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Malheureusement, nous avons la fâcheuse tendance d'oublier ce que Jésus a dit dans le serment sur la montagne. Jésus pousse la chose très loin. Il n'est pas seulement question de nos actions, de ce qui est visible. Il est question de notre cœur, de ce qui est invisible aux autres, nos pensées, nos désirs, nos convoitises. Qui parmi nous pourrait dire qu'il n'a jamais eu de pensée de ressentiment, voire de haine, qui sont montées en lui dans un accès de colère qui est difficile à justifier? Bien sûr, on n'explose pas dans le meilleur des cas. On garde tout cela enfermé dans notre cœur. Mais on sait très bien ce qui se passe au fond de nous-mêmes. Jésus place la barre très haut. Jacques, lui, nous dit qu'observer toute la loi et trébucher sur un seul point, c'est se rendre coupable de tout. Observer la loi est une bonne chose, mais en réalité, la loi nous montre à quel point nous sommes loin d'être là où nous devrions être, et combien nous ne sommes que de misérables pécheurs aux yeux de Dieu. Et que si Dieu n'était pas intervenu, nous n'aurions pas de porte de sortie. Voilà verset 21-22. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Et il dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus lui dit en toute franchise, « Il ne te manque qu'une chose. » Jésus ne lui dit pas qu'il lui manquait beaucoup de choses, juste une seule chose. Et il faut l'admettre, cette chose était bel et bien à sa portée. Il va avoir la réponse à sa question. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Va, vends, donne, tu auras un trésor dans le ciel. Mais Jésus n'a pas terminé. Il continue sa lancée. Puis viens et suis-moi. Ce sont les mots que Timothée a soulignés dans son message. Viens, puis viens et suis-moi. Nous savons tous qu'il y a des choix qui ne sont pas faciles dans nos vies. Nous sommes tellement attachés à la vie sur terre. Nos mains sont pleines de bonnes choses de la vie présente. Et nous avons tant de mal à nous détacher de tout ce qui a de l'emprise sur nous. Pour enfin recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Et ce que nous avons sur cette terre est passager et ne peut d'aucune manière être comparé à ce que le Seigneur veut nous donner. Il y a des choses dans ce passage qui méritent notre attention, mais nous n'avons peut-être pas le temps de les regarder en profondeur. Mais le verset 22 me fait réfléchir. En entendant ces choses, l'homme s'assombrit. Il s'en alla tout triste, car il était riche. Oui, très riche. Nous avons encore un détail ici dans le portrait de ce jeune homme. Il était très riche. Avec l'argent, nous pouvons faire énormément de choses. Je pense à ce que l'infirmier du village où nous habitions au Burkina, ce qu'il disait, être riche, avoir assez d'argent pour se soigner quand on tombe malade, c'est quelque chose d'énorme dans la vie. Tant de gens venaient au centre médical, mais n'avaient presque rien pour acheter les médicaments. Tout dernièrement, nous avons lu les réflexions d'un missionnaire qui travaille parmi les Peuls, certainement en Afrique de l'Ouest. Il s'est retrouvé à l'hôpital après une crise cardiaque. Dans ce centre médical, il n'avait ni toilette, ni eau courante. Sa femme dormait, même le sol à côté de lui. Elle l'aidait à se laver, à se nourrir, à se procurer les médicaments. Je cite ses paroles. « Nous étions entourés de gens qui souffraient et luttaient pour trouver l'argent, pour payer leur traitement et leurs médicaments. « Vous devez être riche pour être malade », nous a dit quelqu'un d'un ton désabusé. Nous avons prié, essayé de partager cette espérance que nous donne l'Évangile avec ceux qui nous entouraient. Après 2 jours, grâce à l'assurance maladie, j'ai été amené dans une clinique climatisée prête à être évacuée. Des options totalement hors de la portée de la plupart des gens. Cela semble vraiment injuste. Il voyait cette crise cardiaque comme un simple ralentisseur sur sa route. Il ne songeait qu'à une chose, repartir dans ce pays pour offrir à ces gens tellement démunis tout ce qu'ils pouvaient leur apporter. Et surtout cette espérance que Jésus donne. Pourtant, nous le savons bien, l'argent n'est pas tout. Notre vie est peu de choses. Demain ne nous appartient pas encore. Vous vous rappelez de cette parabole de Jésus en Luc 12. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Jésus nous parle de ce riche propriétaire qui avait une si belle récolte. Il décide de construire des greniers encore plus grands, d'y entasser tout son blé et tous ses biens. Il se dit, « Mon âme, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Aujourd'hui, tant de gens font la même chose. Mais à la fin de leur vie, tout s'écroule. Il ne reste rien. Comme dans la parabole de l'homme insensé, Dieu et les choses de l'éternité sont absents de leur esprit. Ils pensent, « Oh, j'ai encore le temps. D'ici quelques années, je changerai de cap. Je ferai le pas. » Mais pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Je dois d'abord profiter de tout ce que cette vie peut m'offrir. Verset 23-24, Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples. Puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les a surpris, mais Jésus insista, « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » 25-27, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda. Il leur dit, aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce qui me frappe, ce sont ces paroles de Jésus, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont étonnés. Pour enfoncer le clou, Jésus parle d'un chameau, peut-être le plus grand animal connu en Palestine à cette époque, et du trou d'une aiguille, le plus petit trou que les gens connaissaient. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les disciples étaient encore plus étonnés. Alors, qui peut être sauvé? Heureusement, Jésus répond, « Aux hommes, c'est difficile, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Vous vous rappelez dans la parole du semeur, Jésus parle de la parole comme une semence. Elle germe dans les cœurs, mais avec le temps, elle est étouffée par les soucis de ce monde, par l'attrait trompeur des richesses. L'année passée, dans l'épître de Jacques, nous avons appris que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mais regardons encore une fois la question posée par ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Souvent, les gens ont cette pensée qui revient dans leur cœur. La vie éternelle, ça se mérite. Il faut gagner des points comme avec des cartes de fidélité. Dans la pensée de certains, au jour du jugement, les œuvres bonnes doivent l'emporter sur les mauvaises, afin que la balance se penche du bon côté. Pourtant, le Nouveau Testament s'accorde pour nous dire une chose. Le salut de nos âmes, c'est le cadeau que Dieu nous offre. Cela ne se mérite pas. Nous avons ce verset en Éphésiens 2. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Il est parfois difficile d'accepter un cadeau. On préfère mille fois mériter quelque chose. Mais le salut n'est pas une question de mérite. Son prix est trop élevé. Nous n'arriverions jamais à en payer le prix. Heureusement, Jésus a payé le prix et aujourd'hui, il nous offre ce cadeau. C'est une offre généreuse faite à tous. Au jeune homme riche, Jésus dit simplement, « Viens, suis-moi. » Acceptons de faire route avec Jésus. Comme Timothée a dit dans son message, ce voyage nous amènera à la croix, où nous comprendrons ce que peut-être nous n'avons pas encore compris. Nous aurons le cœur brisé face à cette injustice. Un homme tout à fait innocent qui meurt, les clous qui transpercent les pieds, les mains. Et nous comprendrons que cette injustice, c'est pour nous, c'était pour nous. Pour payer le prix de nos péchés, pour que nous soyons pardonnés, graciés, pour que nous retrouvions la paix avec Dieu. Il y a un tout dernier détail du portrait de cet homme. Il est reparti, la tête baissée, avec un air sombre, tout triste. Oui, il repart avec ses richesses. Il s'accroche à tout ce qu'il a dans cette vie. Il a tout, mais en réalité, il a peu de choses. Oui, il va garder ce qu'il pense être des trésors, mais ces trésors sont éphémères, passagers. Oui, suivre Jésus, il le voudrait bien, Mais cela lui semble trop difficile. Pourtant, Jésus lui a dit, « Suis-moi, tu auras un trésor, un vrai, dans le ciel. » Il se peut que nous ne sentions pas concernés par ce texte. Nous ne sentons pas riches, en tout cas pas comme ce jeune homme. Mais il se peut que ce ne soit pas les richesses de la vie présente qui nous empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous empêche de faire le pas, d'accepter l'invitation que Jésus vous adresse aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voudriez pas lâcher. Pourtant, au fond de nous-mêmes, nous savons que c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et nous savons que cette chose est incompatible avec la vie d'un disciple. Laissons l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs, mettre le doigt sur ce qui nous lie, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer. Alors nous arrivons à la fin de ce passage, versets 28 et 31. Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi, de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. » Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Quelle belle parole. Jésus nous rassure que si nous faisons route avec lui, nous ne serons jamais des perdants, jamais des losers. Nous serons seulement des gagnants, des gagnants. Je me rappelle du directeur de mon école primaire et de son épouse. C'était nos voisins quand j'étais petit. C'était des gens éduqués, intelligents. Ils étaient peut-être un peu déçus que peu de leurs élèves avaient poursuivi leurs études pour obtenir de bons diplômes. Je pense que c'est grâce à l'Évangile que j'ai persévéré. Et même si je n'étais pas un étudiant brillant, j'ai réussi à avoir un diplôme à la fin de mes études. Mais ce directeur et sa femme m'ont fait comprendre qu'en partant en Afrique à cause de l'Évangile, j'avais en quelque sorte gaspiller mon éducation. Si j'étais resté dans mon pays, j'aurais peut-être pu avoir un travail, un bon salaire, peut-être même une situation confortable. C'était leur perspective des choses. Mais je me demande aujourd'hui, en réalité, qu'est-ce que j'ai perdu? Rien. Je n'ai rien perdu. En faisant route avec Jésus, nous avons beaucoup, beaucoup reçu. Aujourd'hui, Jésus nous tend la main. Nous pouvons refuser son invitation. Nous pensons qu'il a trop à perdre. Pourtant, il y a tout à gagner. Dire oui à l'appel que Jésus nous adresse ne veut pas forcément dire aller à l'autre bout du monde. C'est peut-être ici que Dieu nous veut. C'est ici qu'il faut agir et travailler. Mais quand nous faisons route avec Jésus, c'est une belle aventure. Une vie tournée vers le service, vers l'obéissance à ce Dieu qui nous aime tant. Il y a encore une chose, je vais terminer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Jésus a regardé ce jeune homme avec amour. Cet homme avait des qualités, il était sincère, il était sérieux. et cherchait des réponses à ses questions. Et Jésus l'aimait. Le regard de Jésus était plein d'affection. Il voulait le meilleur pour ce jeune homme. C'est pourquoi il lui dit qu'il lui manquait encore une chose. Un cœur entier, sans partage, comme Timothée l'a dit. Prêt à abandonner, à lâcher tout ce qui était peut-être le plus cher. Puis de venir le suivre. L'homme repart tout triste, le choix semble trop difficile. Mais que voyons-nous? Est-ce que Jésus court après lui pour le rattraper, pour essayer de le raisonner? Non, pas du tout. Je crois que Jésus avait aussi le cœur triste, déchiré, en voyant ce jeune homme qui repartait. Vous savez, c'est notre responsabilité, la responsabilité de chacun de nous de dire soit oui, soit non. Ce jeune homme est reparti comme il est venu. Nous pouvons venir dans cette église et repartir comme nous sommes venus, sans aucun changement, sans aucun engagement par rapport à la parole que nous entendons. Jésus dit, viens et suis-moi. Peut-être nous n'acceptons pas son invitation, quel dommage. Jésus nous invite à faire route avec lui, nous ne savons pas où il nous amènera. Mais une chose est sûre, nous ne serons jamais perdants. Décidons de lâcher prise, de lâcher tout ce qui fait obstacle à cet appel. Ne regardons pas le prix à payer, ne pensons pas à ce que diront les personnes de notre entourage. Pour terminer, je voudrais que nous reprenions ce chant. J'aime 720. Viens, ne tarde plus, adore. Le plus grand bonheur aujourd'hui, c'est d'avoir ce regard tourné vers le Seigneur, d'avoir cet esprit d'adoration. Quand nous chantons ce chant, pensons aux paroles. Un jour, tout genou fléchira. Le vrai trésor est pour ceux qui vont le choisir aujourd'hui. Jésus dit, viens et suis-moi.